14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Ah, vous l'avez reconnu, cette musique qui annonce l'arrivée en furie de dinosaures affamés, c'est bien sûr Jurassic Park.
Ah non, très bien, non, je me suis trompé.
Je croyais que c'était Bernard Minet comme la semaine dernière.
Ah Garros, oui, moi. Effectivement, oui.
Saga initiée en 1993 par Steven Spielberg, adaptée du roman de Michael Crichton. À l'occasion donc de la sortie du nouvel opus au cinéma depuis mercredi, Jurassic World, le monde d'après, nous avons décidé de nous replonger dans les meilleurs films de créatures au cinéma. Et je peux vous dire que c'était compliqué de faire un choix, il y en a hein, quand même des créatures. On se rend compte à quel point il y a eu de folles attaques de bestioles. Alors la référence quand même en la matière, ça reste Jurassic Park.
Ouais.
Bon, qui sont des créatures sans être des créatures, c'est même
des
pas une invention, c'est des vrais dinosaures.
Ils étaient là avant nous quand même.
Exactement, oui.
On a repris le bail, mais peut-être pas pour toujours.
C'est pas faux.
Alors on rappelle que le film se passe dans un parc d'attractions animalier sur une île fictive où un milliardaire parvient à ramener à la vie des dinosaures grâce au clonage. Seulement, petit problème, le rêve tourne au cauchemar lorsque les dinosaures arrivent à s'évader.
Vous avez entendu ? C'est un pas qui fait trembler la terre. Je commence à être vraiment inquiet. Dépêchez-vous, faut foutre le camp, vraiment, hein, maintenant, tout de suite, allez, en route. Dépêchez-vous, allez, faut mettre en route. Démarrez.
Extrait donc du premier volet de Jurassic Park. On parlera donc du dernier volet en dernière partie d'émission. C'est beaucoup de dernier dans la même phrase. Juste une réaction pour répondre à nous mettre l'eau à la bouche.
C'est magnifique, mais c'est magnifique comme tous les films de Steven Spielberg qui arrivent à la fois à traiter de l'enfance et du gigantisme dans le même plan. C'est toujours brillant et Jurassic Park a réussi le premier Jurassic Park là où beaucoup d'autres ont échoué.
Et ça, on en parlera tout à l'heure.
On parlera du dernier. Voilà.
Oh là là là.
Victor est déçu, apparemment.
Il n'y a pas à être déçu quand on n'a pas d'attente.
Et dans un autre registre, il y a cette petite créature, si je vous dis Gizmo.
Oh,
c'est
formidable.
Beaucoup entraîné. Franck est atterré. C'est bien sûr l'adorable Gizmo des Gremlins.
Clap, l'émission avec des imitations toutes les semaines.
Mais pourri, voilà. C'est pas mon fort, les imitations, désolé. Et encore, je vous épingle mais les accents.
Mais non,
je
mais
sais
chef,
pas du...
vous étiez très bien, chef.
Oh là là.
Alors, si vous ne respectez pas les règles des Mogwai, ils peuvent se transformer en vilain monstre.
En Gremlins.
Et quelles sont les trois règles alors ?
Alors, pas de nourriture après minuit.
Pas d'eau aussi après minuit.
Mm-hmm.
Et il y a un truc genre à la lumière, non ?
Ne pas l'exposer à la lumière.
Exactement,
voilà.
Il a un nom, pas ?
C'est un Mogwai.
Quoi ?
Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire.
Alors, Gizmo, regarde-moi une minute. Prêt ? 1, 2, 3.
Non.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Il déteste les lumières brillantes.
Mais oui, le flash,
mais
l'appareil
évidemment.
Photo, erreur. On se souvient aussi de la terreur avec la découverte d'Alien, film de science-fiction de 1979.
Oh là là,
culte.
Inspiré par Giger.
Mais ça,
c'est la mec.
Ça, c'est
la mec, voilà. Du monstre.
Ça, c'est au-dessus de tout, avec Sigourney Weaver.
Est-ce que tu vois ça ?
J'ai jamais vu une chose pareille.
Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique.
On va avoir beaucoup de cris hein, dans cette première partie d'émission.
Heureusement qu'il est 15h, hein, parce que, pas quand on est au début d'après-midi.
14h même. Oui. Franck Vanière, vous m'aviez confié, hein, je vous cite, qu'Alien est votre chouchou en matière de films de créatures.
Ben
je
ne
sais
ouais.
pas si chouchou lui correspond, mais...
Ce polymorphe est génial. C'est à la fois le parallèle, mais en monstrueux, de l'homme, c'est-à-dire qu'il cherche absolument à survivre par tous les moyens, si ce n'est que cette bestiole en a sacrément les moyens. Et puis en même temps, c'est la terreur absolue, c'est l'univers de Giger. Ce sont des piliers de ma maison, toute la saga Alien, toute. Il y en a qui sont un petit peu moins forts. Bon, d'accord.
Le meilleur, c'est le 3.
Ah, le Fincher.
Oui, moi, c'est mon préféré, le Fincher.
Ah, j'adore le Fincher parce que c'est le premier qui est vraiment sombre.
Ouais.
Mais Aliens Le Cameron est quand même.
Ouais, on peut se dire que le meilleur,
come
c'est le Ridley Scott.
Bitch.
Ouais, le Ridley Scott, allez.
Avec que des petits noms à la réalisation, évidemment.
Ouais.
On ne les connaît pas du tout, tous ces gens-là.
Tout à fait.
Si on pense créatures au cinéma, bien sûr, comment ne pas évoquer King Kong et Godzilla ?
Ah, bah ça, c'est une évidence. Mais c'est toujours cette question-là aussi de la créature au cinéma. C'est à partir du moment où on va défier les forces de la nature, comment les forces de la nature vont essayer de se retourner contre nous. L'homme qui a pensé posséder la jungle à un moment, la jungle se retourne contre lui et vient le détruire. De la même manière que Godzilla était une métaphore à l'époque, justement, des essais atomiques. Et de cette peur de la bombe et du traumatisme japonais. Et en plus, on a eu la chance de les voir plus tard s'affronter et de voir l'impérialisme américain affronter la terreur de la bombe qui était celle de Godzilla. Autant vous dire que ça fait des éclats.
C'est Godzilla. Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre.
Qui s'incline devant qui ?
Kong ne s'incline devant personne.
Alors, Team King Kong ou Godzilla ?
Godzilla, wow. Bah, les films sont bien meilleurs. Après, alors, les films sont bien meilleurs si on nommait le Kong de Peter Jackson, qui est vraiment
j'adore
très
King
très
Kong.
Bon. Mais Godzilla 100%.
Moi, je marche pas aux gros monstres, en fait. Je marche à
les kaijus. C'est trop bien.
Ouais, c'est bien, mais ça me fait penser. En plus, sur les mélanges.
Donc quoi, donc aucun des deux, Franck ?
Non, moi, je reste sur l'alien polymorphe.
Sur
alien. Ou alors sur l'extraterrestre de The Thing, par exemple.
Alors, ah oui, pas mal. On va en parler. Bah tiens, on en parle maintenant, alors ?
Bah oui, allons-y.
On en parle maintenant. Alors, The Thing de John Carpenter, film culte, effectivement, par excellence, cette chose qui prenait le corps et l'apparence de celui qu'elle engloutit. Fait partie des meilleurs films d'horreur. Bah, tout le monde se demande si le monstre est en fait le voisin.
Qui est surtout un film qui s'est planté à l'époque. Il faut quand même se rappeler que la sortie de The Thing, c'est un échec critique, c'est un échec au box-office. Les gens ne voulaient pas voir le film, mais c'est la culture vidéoclub qui a permis de se le réapproprier ensuite et d'en faire le monument qu'il est aujourd'hui.
Et pour moi, c'est un cousin un peu bourré, un peu maladroit d'Alien. C'est-à-dire qu'il essaye de faire des trucs, il arrive à nous faire peur, mais il n'arrive jamais tellement à ses fins.
Alors moi, dans le genre, il y en a un qui m'a traumatisé. Hein. C'est pour moi l'incontournable, c'est Les Dents de la Mer qui nous a tous empêchés de nous baigner dans la mer sereinement pendant de nombreuses années quand même.
Oui, aujourd'hui encore.
Et cette musique de John Williams. Je la laisse. Imaginez là, pour entrer dans l'eau. Bain de minuit, scène d'ouverture.
Si des gens nous écoutent sur la plage, ils doivent être bien là, dis donc. Hein.
Elle est affreuse cette scène d'ouverture là, lors du bain de minuit, vous en souvenez ?
Bah oui, évidemment. Piranha, ça avait fait ça aussi un petit peu.
Mmh, oui, Piranha se voulait comme une sorte de plagiat des
Dents de la
mer.
Sorti après. Ouais. Et Les Dents de la Mer, c'était encore une fois un certain Steven Spielberg à l'origine de tout ça.
Comme voilà, quoi, hein ? Il y a toujours le meilleur à la réalisation derrière.
Et c'est encore une fois, parce que pas trop de thunes, on va pas s'embêter à essayer de tout montrer un monstre. On va faire comme dans Duel, on va essayer de créer le suspense par l'absence. Chapeau le gars.
Chapeau. Et dans le genre bestiole qu'on n'a pas envie de croiser sur notre chemin, on peut aussi citer la mouche.
Ah, j'ai cru que vous alliez parler de ma belle-mère.
Et si elle nous écoute, elle aussi
contente.
Sur la plage, elle
Marie-France,
va être
si tu nous écoutes.
Moi, je veux pas de divorce sur le zoo avec cette émission. Aux manettes de la mouche, David Cronenberg devant la caméra,
ah bah oui.
Et puis celui qui joue aussi dans Jurassic Park, qui revient d'ailleurs
Jeff
dans
Goldblum.
Jurassic. Ouais, exactement, Jurassic World. Alors la mouche, film d'horreur assez traumatisant et culte.
Ah, tout à fait, et puis c'est Cronenberg qui continuera et qui continue encore aujourd'hui d'explorer le corps. On l'a vu avec Crimes of the Future qui est passé par Cannes et qui est actuellement en salle. Si jamais vous aimez le style Cronenberg, allez voir Les Crimes du Futur, c'est vraiment super.
On parlait de The Thing, la chose, il est un peu notre chose à nous et il est avec nous depuis Los Angeles. Excusez-moi pour cette transition, comme chaque semaine, c'est Didier Alouche, voici son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Mardi dernier, c'était soir de première sur Hollywood Boulevard pour Miss Marvel, la série Marvel, destinée à Disney+, et attendue par des millions de fans dans le monde. Sous ses airs ultra fun, Miss Marvel brise les tabous d'un Hollywood parfois trop conservateur. Pour la première fois dans l'histoire des séries, l'héroïne est une jeune américaine musulmane d'origine pakistanaise. Sur le tapis rouge ce soir-là, les talents venaient vraiment de partout, même de Bruxelles, puisque les réalisateurs de la série Adil El Arbi et Bilal Fallah sont belges. Les deux amis ont explosé à Hollywood en réalisant Bad Boys 3, sans oublier de retourner en Europe pour mettre en scène d'autres films plus intimes, mais tout aussi ambitieux, comme l'excellent Rebelle présenté au dernier Festival de Cannes. Un équilibre entre Bruxelles et Hollywood important pour Adil et Bilal, surtout s'ils viennent ici pour travailler sur une histoire qui peut tout changer à la représentation de tous sur les écrans. Les deux réalisateurs en sont bien conscients.
Ces films-là, ces séries-là, ça fait rêver le monde. Tout le monde regarde, surtout les jeunes. Et nous, on essaye toujours de raconter des histoires qui peuvent toucher le monde entier. Et en faisant ça avec ce personnage-là, Kamala Khan, qui est une Pakistanaise américaine, une musulmane, bah, ça faisait penser à nous quand on avait 15 ans, 16 ans. En tant que Marocain belge, on se cherchait aussi, on cherchait notre identité à nous. On n'était pas 100% chez nous en tant que belge, mais non plus aussi qu'en tant que Marocain. Et cette crise identitaire, bah, c'est un truc qui nous parlait vraiment dans ce personnage-là. Et en même temps, on voulait aussi rendre ce personnage universel, que tout le monde puisse s'y retrouver, un peu comme on se retrouve tous dans Peter Parker, un jeune mec de Queens.
C'est quoi votre position ici à Hollywood depuis Bad Boys 3? On sait que vous devez avoir des tonnes de propositions.
Bah, le truc, c'est que bien sûr, on est dans une grosse machine. C'est Marvel, donc il y a un cadre, donc il faut vraiment rester dans ce cadre-là. Mais on a reçu beaucoup de liberté. Mais c'est une grosse machine, donc il faut un peu tenir compte du reste de la MCU, bien sûr. Alors qu'en Belgique, il y a moins de thunes, on ne peut pas faire des trucs dingues avec les effets visuels, mais on peut raconter des histoires d'une façon très originale aussi. Donc on utilise ces deux choses, on apprend de Hollywood et on apprend aussi de la Belgique.
Une dernière chose, un Marvel à Bruxelles, c'est possible?
Tout est possible, Inch'Allah, ouais, on sait pas.
C'est un multiverse, hein, tu sais jamais. Hein.
Ouais. Saison 2, ou s'il y a un film avec Miss Marvel, on tournera un peu à Bruxelles, ouais, ça serait bien.
En attendant The Avengers versus The Manneken Pis, Miss Marvel, c'est en ce moment sur Disney+.
Merci beaucoup Didier Alouche, on se retrouve la semaine prochaine dans un instant, franchement, et là je suis très très contente. Alain Chabat sera à mes côtés ainsi que Léa Drucker pour parler du film de Quentin Dupieux. Surtout ne bougez pas, on se retrouve tout de suite sur Europe.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être au rendez-vous de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma en compagnie de celles et ceux qui le font. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'être aux côtés d'un des artistes qui m'a le plus fait rire à la télévision, au cinéma. C'est un peu notre héros à tous. Et l'une de nos comédiennes les plus talentueuses qui m'a bouleversée, notamment dans Jusqu'à la garde, ou encore captivée plus récemment dans Le Monde d'hier. Bonjour Léa Drucker et Alain Chabat.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous recevoir dans Clap. Vous êtes mes invités car vous serez le 15 juin à l'affiche d'Incroyable mais vrai, le 10e film de Quentin Dupieux. C'est une
expérience.
Le 10e déjà.
Ah ouais.
C'est toujours une expérience à part de tourner dans un film de Quentin Dupieux.
En tout cas, moi, c'est à chaque fois un plaisir. J'en ai fait
trois,
effectivement.
Pour quatre, il y en a un, c'est une participation vocale.
Un, trois, un quart. réalité, Fumée fait tousser, qui sortira, je ne sais pas quoi, en octobre, je crois. Et puis, Incroyable mais vrai, là, qui sort là. Ouais, c'est toujours super. C'est toujours super dans l'écriture et c'est toujours super à faire parce que c'est hyper agréable de travailler avec lui, tout simplement.
Léa, alors, moi, c'était la première fois, contrairement à Alain. Et je n'ai pas été déçue. Le réveil sonnait le matin et je faisais « Ouais !» Vraiment la joie, quoi.
Alors bon, c'est compliqué de parler de ce film parce qu'il faut garder le mystère. Hein. Tout l'intérêt d'aller le découvrir au cinéma, c'est ce mystère. Donc toute la communication autour du film reste assez mystérieuse. Il y a une affiche, des petits teasers, mais voilà. Ce qu'on peut dire, ça tient en deux phrases. C'est Alain et Marie emménagent dans un pavillon et une trappe située dans la cave va bouleverser cette existence. Pourquoi tant de mystères, d'ailleurs ? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs?
Je sais que Quentin, à un moment, se disait « Qu'est-ce qu'on fait comme bande-annonce ? On peut faire une bande-annonce normale où on résume un peu le film. Et puis, tu as un peu vu le film avant de le voir.
C'est
vrai. Puis, est-ce qu'on fait une bande-annonce complètement particulière, qu'on tourne ? Bon, bref. Et au bout d'un moment, il se dit « Voilà, ça va être ça. On va vraiment teaser. » Mais un peu comme dans le film, parce qu'il y a un peu ce rythme dans le film aussi. Donc voilà, ils sont partis là-dessus. Franchement, moi, je trouve ça...
Ils s'amusent à attiser la curiosité. C'est vrai que pendant le film, il y a un moment donné, on a envie de leur dire « Bon, vous allez nous dire ce qui se passe ?»
Mais c'est un peu ce qu'on vit, nous. C'est-à-dire, oui. Par exemple, quand on attend de savoir ce que le couple que jouent Anaïs et Benoît, on attend vraiment dans le temps réel de savoir ce qu'ils ont à nous donner comme information, qui est incroyable. Donc ça, ce suspense-là, c'est bien qu'il soit dans la bande-annonce.
J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est, à mon sens, le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie.
Quand on descend dans ce conduit...
C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner?
Laisse-le parler, tais-toi.
Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose.
Bah, dites-nous quoi, merde.
Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité.
Non mais c'est juste dingue.
Et alors, c'est pas tout.
Léa Drucker, quel genre de partenaire est Alain Chabat?
Oh bah, c'est... Moi, j'étais très, très excitée à la fois de travailler avec Quentin, mais aussi d'être en couple avec Alain. de partager ce scénario, ces scènes, ces situations, et qu'on puisse les jouer ensemble. Parce que moi, je crois que j'ai toujours cette sensation qu'il n'y a jamais vraiment de hasard sur les associations qui arrivent comme ça. Je pense que c'est sorti de la tête de Quentin, mais évidemment que quand je vois ce que réalise Alain ou ce qu'il joue, je me sens une familiarité, comme si... on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, sans se connaître au départ vraiment. Et c'est aussi le rapport qu'on a en tant que spectateur quand on voit des acteurs à l'écran. Enfin, il y en a avec qui on a plus de familiarité que d'autres. Et donc, Alain, je n'ai pas été déçue non plus, parce que c'est aussi quelqu'un qui a cette curiosité et qui s'intéresse aux autres et qui laisse de la place et qui est très client. Il est comme moi, il est acteur et spectateur. Parce qu'on riait un peu comme des benets sur le tournage, sur les sorties de Quentin. Enfin, on était très spectateurs aussi. Après, on était on jouait, mais je pense qu'on partageait tous les deux vraiment l'enthousiasme d'être sur ce plateau-là.
Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on ne se connaît pas plus que ça, alors que j'ai l'impression de connaître super bien Léa, mais finalement, on se connaît peu. Et par exemple, en voyant le film, je l'ai vu travailler Léa, enfin, je l'ai vu construire son personnage, enfin, je l'ai vu tourner. Je veux dire, on a tourné ensemble, on a fait les scènes, vraiment, on a partagé. C'est pareil aussi, c'était super agréable aussi d'être tendu et sérieux dans des scènes où à l'intérieur, moi, je hurle de rire.
C'est ça, on peut le dire, votre personnage est obsédé par
Mais il est fantastique, son personnage.
Ben oui, par l'âge qui passe et par le fait de peut-être rajeunir.
Oui, ouais, une obsession pathétique, mais humaine.
Ouais. et de voir le film après, et de voir ce qu'elle a construit, en fait. Je ne sais pas comment dire, d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, et pourtant je l'ai vu de mes yeux vus, tous les jours, puisqu'on a travaillé ensemble. J'ai vu le truc... Je me suis dit, ah ouais, non, mais elle est trop forte. Trop forte.
Vous n'aviez pas réalisé à quel point il y a du génie dans le jeu de Léane Rucker. Ça, je suis d'accord avec vous. Quentin Dupieux, il dit aussi de vous, Alain, mais c'est drôle, je trouve que ça vous correspond à tous les deux. Mais ça, il l'a dit dans un précédent film. Je n'ai pas la citation pour vous, Léa.
Imaginez qu'elle est pour moi.
Il a ce génie, Alain Chabat, qui lui fait donner l'impression de vivre les situations pour de vrai. Et c'est vrai que c'est un bon compliment. Ouais, c'est un joli compliment. Et c'est vrai que ce couple, en fait, nous, on a l'impression qu'ils vivent vraiment ce qui se passe dans cette maison pour de vrai. Et ce qui se passe aussi avec son voisin, donc, qui est joué par Benoît Magimel, qui est aussi votre patron, Alain Chabat, qui est en couple avec Anaïs de Moustier. Et c'est vrai c'est des scènes de vie quotidienne, quoi. Ce fameux dîner à un moment donné où ils se révèlent chacun des trucs complètement dingues.
Mais c'est ça qu'ils
ont vécu à un moment donné.
Mais c'est ça que tout le monde voulait essayer de réussir, en tout cas, c'était que ça devienne quelque chose de
banal.
Si on le jouait de façon foufou et tout ça, je pense que ça s'éteindrait assez vite. Mais plus on était presque banal,
banal.
Merci beaucoup. Et plus ça marche.
Je vous conseille, chers auditeurs, de courir au cinéma le 15 juin, découvrir Incroyable mais vrai. Surtout, ne bougez pas, Clap continue dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.
Alain Chabat et Léa Drucker, vous êtes mes invités car vous serez le 15 juin à l'affiche d'Incroyable mais vrai, le 10e film de Quentin Dupieux. La peur du temps qui passe, Alain Chabat et Léa Drucker, c'est quelque chose qui vous titille ? C'est une des thématiques du film ?
Moi, j'ai déjà bien morflé, donc franchement, maintenant, je me fais une raison. Je trouve que c'est un privilège quand même tu vois, c'est cool d'arriver jusque-là, donc c'est un privilège de vieillir. Après, oui, si je pouvais me passer de deux, trois petits trucs, je le ferais, mais en fait,
Il y a un mal au dos, un truc comme ça.
Exactement, un bon petit mal au dos. Voilà, moi, j'aime bien discuter avec les vieux aussi. Enfin, tu vois, j'adore
échanger, d'avoir plus d'expérience à partager.
Oui, moi, je suis un peu comme Alain. Ça dépend des matins. Il y a des matins où ça fait chier quand même un peu. Et puis, en même temps, c'est bon. Dans mon parcours de vie et de travail, le temps a été plutôt mon allié, en fait. Plus le temps est passé, et plus ma vie devient... Je ne dis pas qu'elle n'était pas intéressante au départ, mais je trouve chouette, quoi. Je suis titillée.
J'allais vous demander à quel âge vous avez le sentiment d'avoir été le plus heureux dans votre vie.
Moi, c'est aujourd'hui. Enfin, il y a plein d'étapes, franchement. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Mais aujourd'hui, merci mon Dieu, je suis très bien, quoi.
Oui, moi aussi.
Le film parle aussi de l'usure du couple. Hein. C'est aussi une des thématiques. Est-ce que vous avez le sentiment que, finalement, Quentin Dupieux parle de son propre rapport au couple ? Peut-être que vous avez la réponse, tout simplement.
En tout cas, il part de son observation, il observe beaucoup les gens. Donc il part sûrement de... C'est une mosaïque de gens qu'il connaît, peut-être un peu de lui-même, peut-être... Mais je crois que c'est assez... je pense qu'il s'imprègne vachement de des gens qui regardent autour de lui, dans les dîners, dans les... Donc je dirais pas que c'est autobiographique, je crois pas du tout.
Non, et je pense que cette dynamique-là, elle est parfaite pour ce sujet, quoi. Enfin, j'ai l'impression, donc... J'imagine que c'est pour ça qu'il a choisi.
Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse quand même dans ce film. Il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est peut-être d'ailleurs l'un de ces films où il y a le plus, où il y a le plus d'amour, je dirais.
Vous avez tout à fait raison. Non, mais c'est vrai. Il y a très peu de distance. Il y a des films où il pourrait y avoir un peu de distance. Là, il a une grande tendresse pour les persos. C'est très chaleureux. Je suis d'accord.
Ouais, c'est pas cynique du tout.
Non.
Et le personnage que joue Alain se bat, quoi. Il se bat vraiment pour ramener les choses à quelque chose de plus normal, de plus ordinaire, et de se contenter de ça. Et il essaye vraiment, il se démène, quoi. Et ça, c'est hyper touchant.
On a une raison d'être inquiet, mais c'est pas évident d'en parler comme ça, quoi.
En fait, on a peur que vous nous preniez pour des fous, quoi, si on vous raconte l'histoire.
C'est ça. Je tente quand même, je me lance.
Le personnage de Benoît Magimel aussi, extrêmement drôle.
Oh, c'est génial, ça aussi.
Benoît, franchement, il est incroyable dedans, Benoît.
Donne un cœur joie en plus.
On sent qu'il était très content d'avoir ce rôle.
Ben ouais. Et puis il est magnétique, Benoît, enfin, à l'écran. Non, mais il est.
Il est magnifique.
Un acteur cinglé, moi, dans tous les films, à chaque fois. Et même parfois des films où tu dis, bon, je sais pas, peu importe, il vole la scène. Enfin, il fait toujours quelque chose d'assez costaud, quoi, et de le voir justement dans un truc enfin plus léger, mais il est hilarant.
Il est dément.
En vrai, vous avez réussi à retenir votre calme sur le tournage. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de fous rires ?
Il y en a eu quand même.
Il y a eu quelques fous rires. Ouais. Il y a eu quelques scènes qu'on a plantées.
Dès le début, dès la troisième réplique.
Oui, très très vite.
Parce que dans les dialogues, il y a des phrases impossibles à dire sans éclater de rire. Il nous a fait. En plus, Alain et moi, on avait tous les deux souvent l'œil qui frise.
Mais oui.
Naturellement, là, comme ça, dès qu'on arrive. Ouais,
c'est
ça ricane.
Ça ricane.
Mais en même temps, on prend ça au sérieux aussi.
C'est énervant en plus de niquer la scène.
Très énervant.
Le truc, il est bien. Putain, on l'a planté à...
À peu de choses. Ouais. Hein.
Alors vous, Alain Chabat et Léa Drucker, vous deviez résister au rire. Mais vous, en tout cas, dans les salles, c'est interdit de résister au rire. D'ailleurs, vous ne pourrez pas. Donc, je vous conseille de courir au cinéma le 15 juin, voir Incroyable mais vrai, le nouveau film de Quentin Dupieux. Et Alain Chabat, je précise que vous serez dans le prochain film de Quentin Dupieux, Fumer, fait tousser, qui était présenté au dernier Festival de Cannes.
Tout à fait.
Et vous vous appelez Chef Didier.
Exactement, je joue un
hasard.
Ouais, un hasard, à mon avis. Je joue
un chef cuisinier.
Chef Didier, non, je joue le chef des espèces de troupes de Power Rangers là,
ah oui,
qu'il y a dans le film, qui est un rat. Et donc, je joue un rat que je manipule moi-même en mode Muppet Show ou Meet the Feebles, quoi. Voilà.
Génial. Alors, Alain Chabat, Léa Drucker, vous deviez vous empêcher de rire pendant le tournage, mais vous n'aurez pas, vous, cette contrainte. Je vous conseille, cher auditeur, de courir au cinéma le 15 juin, découvrir Incroyable mais vrai. Merci beaucoup Alain Chabat et Léa Drucker. On change de décor. Si vous aimez les comédies romantiques, du 15 au 19 juin, assistez au 36e Festival du film romantique de Cabourg. Plus de 50 films du monde entier autour du romantisme vont concourir pour les prix du festival et pour les départager un jury de choc présidé par Diane Curis, avec notamment Stéphane De Groot. Bonjour Stéphane.
Mais bonjour Laurie.
Je suis ravie de vous avoir avec nous pour parler de ce festival. Alors, est-ce qu'il faut déjà être un grand romantique pour faire partie du jury du festival du film romantique de Cabourg ?
Moi, c'est une bonne base. Je pense que si vous êtes romantique, c'est bien. Et quand vous revenez du festival, vous devenez un grand romantique. Ce que je suis, par ailleurs.
C'est du vécu ?
Oui, alors j'ai cette faiblesse-là. Alors, je ne sais pas si c'est une faiblesse que d'être romantique, mais en tout cas, ça ajoute une note de poésie à la vie, je trouve.
Si je vous demande votre comédie romantique préférée, alors ?
Mais je suis complètement fan des comédies romantiques anglaises ou américaines que tout le monde connaît. Il y en a une qui me vient comme ça, c'est celle de Hugh Grant. Il y a des comédies romantiques comme ça qui m'ont marqué. Qui
Love Actually.
Oui, voilà, exactement.
Ouais, je crois qu'on a tous ce point-là en commun dans cette émission. C'est toujours cette comédie qui revient le plus souvent. Si je vous demande quel film vous fait tomber amoureux alors de son actrice ?
Oh. C'est ça la force des actrices, c'est que je pense que je peux tomber amoureux 10 fois dans la journée avec ce genre de démarche. Comme je suis un romantique, je me fais avoir, je me fais cueillir. Et se faire cueillir, c'est ça aussi, c'est se laisser emporter. se laisser embaumer par le parfum d'un regard. Et je suis très disposé à ça. Alors, c'est pas pour ça que je donne mon cœur à tout le monde, évidemment. Mais je suis, mes sens sont très éveillés par rapport à ça. Et bien des actrices m'emportent. Oui, forcément, parce que c'est leur force, en fait. Et c'est ma faiblesse.
Et alors, Stéphane De Groot, quelles sont vos attentes pour ce festival du film romantique de Cabourg?
Alors, je n'ai jamais d'attente particulière parce que je veux me laisser emporter. Je pense que quand on a trop d'attentes, forcément que derrière, il y a une déception qui pointe. Mmh. Donc moi, ce qui me plaît déjà, c'est de rencontrer ce jury que je ne connais pas forcément tout le monde et j'aime ça. J'ai des souvenirs de jury, notamment le festival du film de Beaune où Danielle Thompson était la présidente. C'était il y a 5-6 ans avec Elsa Zilberstein, oui. Emmanuel Berco, notamment Éric Barbier. Et on se quitte plus. En fait, on a créé un noyau dur d'amis. Et tous les 3 mois, on se voit pour un dîner chez l'un ou chez l'autre. Et c'est un dîner qui est immuable et auquel on se tient. Parce que ça a généré ça. Oui, c'est super. Je pourrais vous parler d'autres jurys comme ça. Il se passe chaque fois quelque chose. Ici, c'est en plus teinté de romantisme et bercé par ça. J'ai hâte à l'idée de goûter à ces prochains jours à Cabourg.
D'ailleurs, vous venez de citer Elsa Zilberstein. Elsa Zilberstein, vous êtes devenue inséparable ces derniers temps à l'écran. Elle est à l'affiche en ce moment avec vous du film Champagne de Nicolas Vanier. Vous étiez dans Tous nos sourires. Je crois que vous avez fait 4 films au moins cette année ensemble, enfin qui sont sortis cette année.
Oui, on a fait plusieurs films. On a fait Lelouch, on a fait plein de films. Là, le dernier, effectivement, Champagne. C'est un peu ma Claude Jansac du cinéma. et c'est pas pour me déplaire parce que dans la vie, on est très amis, on est très complices. Et puis de travailler avec des gens qu'on aime, qu'on connaît, qui sont des amis, c'est d'abord on gagne du temps parce que je commence à savoir comment ils fonctionnent. Et alors peut-être qu'il y a aussi ça d'intéressant, c'est de se surprendre l'un l'autre puisqu'on se connaît. Et ça donne d'autant plus envie de créer des personnages pour s'effacer derrière ce qu'on connaît de l'un ou de l'autre.
Et alors une autre personne que vous connaissez bien maintenant et qui sera dans le jury, c'est Sylvie Testu, qui est donc à vos côtés aussi dans ce film Champagne, puisque Champagne c'est un film choral dont on va parler d'ailleurs dans la dernière partie de Clap aujourd'hui, dont on a parlé la semaine dernière en compagnie justement de Sylvie Testu, d'Éric Almosino et de Nicolas Vanier. Et vous ne vous quittez plus non plus maintenant.
Absolument, non. Et Sylvie, je suis très heureux de passer quelques jours avec elle. On se quitte plus non plus. Moi, il y a 10 ans, j'ai tourné avec François-Xavier de Maison. C'est devenu un de mes amis chers. Éric Almosino, je l'ai rencontré sur le tournage Champagne. Et on est devenu très proches. Donc, c'est ça la magie du cinéma. Ça provoque des rencontres et puis ça crée des amitiés quand ça se passe bien. Donc, c'est formidable quand ça se passe comme ça. Tout ça me réjouit.
Alors, pour terminer, Stéphane De Groot, si je vous demande quel est pour vous le plus beau baiser de cinéma, puisqu'on parle de comédie romantique.
C'est le prochain.
Pas mal. Ok, ça me va, je prends. Écoutez, on vous souhaite un très bon festival. Je rappelle donc que le festival du film romantique de Cabourg se tiendra du 15 au 19 juin et on vous donnera bien sûr le palmarès dans Clap. Merci beaucoup Stéphane De Groot.
Merci Laurie.
Stéphane De Groot qui est actuellement à l'affiche du film Champagne de Nicolas Vanier. Je vous propose tout de suite qu'on écoute la musique du film qui nous met de bonne humeur, Sugar Baby Love de The Rubettes. Et on se retrouve dans un instant en compagnie de Victor Bonnefoy et Franck Vallière pour tout vous dire sur l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 1.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap. On parle maintenant des sorties cinéma de la semaine. Aujourd'hui, on voyage en région Champagne avec une bande de potes qui s'engueulent autant qu'ils s'aiment avant de voyager dans la campagne anglaise terrifiante. Et bien sûr, les dinosaures reviennent en salle pour vivre une dernière aventure spectaculaire. Autour de cette table, depuis le début de l'émission, Victor Bonnefoy et Franck Vallière.
Bonjour, bonjour.
Les dinosaures de la critique cinéma.
Oh, voilà, dis donc.
Et comme chaque semaine, un mot sur le box-office. Est-ce utile de faire un box-office cette semaine?
Oh bah Tom Cruise est toujours là avec ses gros avions. Hein.
Ouais. Peut-être pas en Chine, il ne sera pas numéro en Chine parce qu'il n'a pas eu son visa d'exploitation parce qu'il y a les drapeaux taïwanais et japonais sur le blouson de Pete Maverick Mitchell. Et donc la Chine a dit « Bernick ». C'est bête pour lui parce que quand même il touche 10% de chaque dollar que le film rapporte dans le monde. T'imagines ça?
Non mais là c'est juste, les chiffres sont énormes. Il a encore totalisé cette semaine plus de 730 000 entrées.
Mais c'est bien, ça montre
qu'il est quasiment à 2 millions d'entrées.
Les gens ont envie de voir du spectacle et voir des blockbusters qui les respectent.
Et ça, tous c'est les bien. Gens, tous
et
les gens de toute génération.
Toute génération, exactement. Tout Alors, on commence notre tour d'horizon des sorties salles. Samedi dernier, nous avons reçu une partie de l'équipe du film Champagne de Nicolas Vanier. L'histoire, je vous le rappelle, c'est une bande de potes de toujours qui se retrouvent pour fêter l'enterrement de vie de garçon de l'un d'entre eux, joué par Stéphane de Groot. Mais vous l'imaginez bien, il va y avoir quelques tensions. C'est drôle, attachant, c'est une belle comédie sur l'amitié à l'épreuve du temps avec un gros casting. Elsa Zilberstein, Stéphie Selma, Stéphane de Groot, François-Xavier de Maison, Valérie Carcenti, Éric Almosino et j'en passe.
C'est marrant, il n'y a pas de bulle.
Bah non, il n'y a pas de bulle par ego, c'est un vrai clair.
Tiens, je file à la gare.
Oui, il va à la gare.
Et bien ça, c'est cri-cri.
Oui, oui, d'accord. La meuf, tu la mets en blonde, c'est Barbie.
Il y a la moitié en plastique, hein, ça se voit direct.
C'est ça, ouais.
C'est très dur d'arriver dans un clan.
J'ai changé, c'est ça?
Oui, t'as changé, oui. Depuis quand tu mets un fut rose pour me connecter en week-end?
Qu'est-ce qui dit que c'est Christine qui me fait changer? C'est ça, l'amitié?
Ah ben, c'est... elle est comme ça, hein.
Sugar. Oui, je pensais que vous alliez reprendre en cœur avec
maintenant
moi.
Maintenant, ça chante.
J'adore cette chanson.
Laurie Chevalier, présidente du fan club des Roubettes pour les Yvelines.
Elle même pas réussi à le prononcer. Laurie Chevalier.
Ouais, il sait plus comment je m'appelle.
On chante maintenant. Je
me mets on dans est sur Europe 1, de... Franck Vallière. Tout va bien.
Je me mets dans l'ambiance de champagne, vous permettez ou pas?
Eh ben, on continue à se mettre dans l'ambiance de champagne. On écoute vos réactions.
Ah, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Ça me rappelait un petit peu le temps où j'allais au ski avec toute une bande de copains. C'est exactement ça.
J'ai aimé les acteurs, j'ai aimé l'histoire. C'est un très joli film. C'est pas du tout son style habituel. C'est bien, c'est réussi.
Très émouvant, tout est sympathique. Stéphane de Groot est tout à fait extraordinaire. Ça fait à la fois rire, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions aussi dans ce film.
Et cette semaine, les dinosaures sont de retour au cinéma dans Jurassic World, le monde d'après. Un troisième volet où les créatures préhistoriques quittent l'île mythique de Jurassic Park et envahissent peu à peu le monde. Et en même temps, des scientifiques créent des sauterelles géantes, comme s'il n'y avait pas déjà assez de catastrophes, qui deviennent incontrôlables. Et pour sauver l'écosystème en danger, Chris Pratt fait appel au trio original Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum.
Ça sent le au secours, ça, non ?
Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique.
Nous avons commis une grave erreur.
Pour que notre monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
J'ai besoin de vos compétences.
Un bébé raptor ?
J'ai promis de la ramener à sa mère.
Vous avez fait une promesse à un dinosaure.
Oui. Pourquoi ?
Et toujours cette musique qu'on aime tant.
Ah oui, qu'est-ce qu'on aime cette musique, mais on aime aussi les bons films. Et malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Je vais être très rapide parce que Laurie, vous faisiez un résumé du long métrage avec cette idée de Chris Pratt qui va chercher les anciens et tout le bazar. Et puis les dinosaures qui ont envahi le monde réel et tout. Ce n'est pas dans le film. Non mais c'est pas pour rire, moi je trouve ça très grave. C'est-à-dire qu'on a fini Jurassic World 2 avec une promesse de dinosaures qui s'échappent dans la ville. On se dit tiens, on va peut-être voir comme un film d'invasion zombie avec des dinosaures dans la ville. Dès les 5 premières minutes du film, c'est évacué. C'est-à-dire qu'on te dit, les dinosaures existent maintenant, mais on va quand même retourner sur une toute petite île, dans notre coin. Et les teams de personnages ne se croisent qu'à partir de 20 minutes avant la fin du film. Donc c'est-à-dire que la nouvelle et l'ancienne génération ne cohabitent pas. Et en plus, les bases de l'histoire sont tellement connes, parce qu'on a vraiment... Non mais il faut le dire, à la fin du 2, on nous dit « Attendez, il y a quand même une petite fille qui a été clonée génétiquement comme les dinosaures !» C'est d'une bêtise crasse. Et dans le deuxième opus, on avait la beauté de la réalisation de Bayona, qui est quand même le réalisateur de l'Orphelinat, de The Impossible, de Quelques Minutes Après Minuit. Là, ils ont refilé ça au tâcheron Colin Trevorrow, qui est aussi bien capable de réaliser des films que ma grand-mère fait des films de vacances. Donc c'est quand même assez incroyable qu'on laisse des budgets aussi démentiels pour faire des films qui prennent le public pour des idiots. Et moi, je trouve ça très triste parce que j'ai grandi avec Jurassic Park, j'ai grandi en aimant les dinosaures, et quand je vais voir Jurassic World, j'ai honte. J'ai honte de me dire qu'on donne ça à des gens. Vous méritez mieux que ces blockbusters pourris. On parlait de Top Gun en salle, Top Gun respecte le public, Top Gun donne ce qu'il a à donner. Jurassic World est un mensonge dans sa communication, un mensonge dans ses envies et ses intérêts commerciaux. Jurassic World 3 est, je pense, qu'on fait de pire en blockbuster depuis des années. Vous méritez mieux que ça, vous méritez des bons films.
Bon, on écoute vos réactions tout de même. On va voir ce que pense le public de tout ça.
J'ai bien aimé. Je suis venu voir des dinosaures, j'ai vu des dinosaures.
C'est James Bond. James Bond dans les temps préhistoriques. Quoi. Il y a des méchants, ils se poursuivent. Je ne retrouve pas l'esprit du premier. Quoi. Bon.
C'est parfait. Je ne pensais même pas que ça serait aussi bien. Je me suis dit qu'avec le numérique, on arrivait à faire des trucs fabuleux.
J'ai adoré. J'adore les dinosaures. Il y avait beaucoup de nouveaux dinosaures. Il y a énormément de rebondissements.
Ouais, j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de musique. C'était bien.
C'est sympa. La boucle est bouclée quoi, avec les protagonistes. Jurassic Park rencontre Jurassic World.
Victor Bonnefoy, faut arrêter d'aller au cinéma sous substance.
Hein. Non, en fait, je peux y aller aussi avec mon petit cousin voir le film, et je pense que lui, en sortant, il dira aussi ah bah c'était trop bien, j'ai vu des dinosaures.
Bah, tant mieux.
C'était super.
Il faut que le film trouve un certain public.
Oui, mais c'est pas parce qu'on met des dinosaures dans un film que c'est bien, que ça fait un bon film. Ça suffit pas.
Peut-être que vous aimez trop le premier.
Non, peut-être que j'aime juste le cinéma.
Il faut faire le deuil du premier Jurassic Park.
Mon Dieu.
Dans un tout autre registre, maintenant, on parle de Men, le troisième film d'Alex Garland, un thriller psychologique, un film d'horreur qui va vous marquer. C'est l'histoire d'Harper qui, après avoir vu son mari se défenestrer sous ses yeux, va s'exiler dans la campagne anglaise pour faire son deuil. Mais rapidement, elle sent une présence menaçante qui va se transformer en cauchemar.
Vous êtes tourmentée.
Non, c'est plus comme si j'étais...
hantée.
Oui. Un homme m'a suivi à la sortie des bois. Il me suivait. Je l'ai vu deux fois.
Deux fois ? Mais je sais pas si lui vous a vu une fois.
Pourquoi vous faites ça ?
On va avoir peur. Alors
attention Laurie, parce que là tu viens de dire que c'est un film d'horreur, mais c'est pas celui auquel on pense. Il y a l'horreur formelle, c'est-à-dire que oui, il y a des scènes un peu sportives, mais il y a surtout l'horreur du sous-texte. Et là où c'est absolument génial, c'est que je trouve que c'est la première fois qu'on arrive à mettre en scène l'idée que les femmes, sans être des post-féministes castratrices, en ont simplement marre de supporter le patriarcat. Et ce film décline tous les aspects psychologiques du discours patriarcal, ou comment, depuis des millénaires, l'homme a mis la main sur la femme en lui demandant une seule chose, de l'aimer et de la fermer. Et je trouve ça extraordinaire de résumer ce propos-là avec un film d'horreur, mais dans les deux cas, c'est un film d'horreur. Mais par contre, il y a la libération de cette femme au bout, et ça, ça vaut vraiment le détour.
Libération, je ne sais pas s'il y a libération. Non, moi j'aime beaucoup Men d'Alex Garland. Et alors voilà, je dis aussi du bien des films des fois.
ça lui arrive.
Non, mais c'est ça, Alex Garland qui avait fait les super Ex Machina et Annihilation. Là encore une fois, c'est très réussi, et aussi parce que Alex Garland maîtrise toute une partie du body horror et de ses envies justement de cinéma qui est entre le fantastique, à la lisière de la tension où parfois on voit, parfois on ne voit pas. Il y a une scène de couloir qui est absolument terrifiante. Avec cet énorme tunnel, avec cette lueur au bout, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va jamais s'en sortir ? C'est toute la question du film, est-ce qu'au bout d'un moment il y a la lumière au bout du tunnel ? Je pense que le film ne tranche pas vraiment la question.
Ah si !
Ah non ! Oh. Ah non, non !
Et accessoirement, le type a des références de malade, parce que ça pourrait être juste du cinéma de genre, mais comme il y a un sous-texte intellectualisant et très d'actualité par rapport aux femmes, les références, c'est pas de la merde, hein. C'est Bleu de Krzysztof Kieślowski, l'héroïne a la même coupe de cheveux que Binoche au début du film, c'est Cris et chuchotement de Bergman, donc c'est...
C'est cinéphile.
Il y a du matos, mais par contre, c'est clivant.
C'est la preuve qu'on peut faire du cinéma d'horreur populaire qui traite de thématiques grand public et qui en même temps est du véritable cinéma d'auteur.
Film qui était sélectionné à la quinzaine des réalisateurs cette année
tout
à Cannes.
Tout à fait, en séance spéciale.
On écoute tout de suite vos réactions.
Je ne sais pas encore ce que j'en ai pensé. C'est très particulier comme ambiance. J'avais vu ses précédents films qui étaient particuliers aussi, mais là...
J'ai vraiment pas aimé. Je trouve ça beaucoup trop bizarre et trop... Ça m'a mis vraiment mal à l'aise. J'étais à deux doigts de partir avant la fin de la séance.
J'aime beaucoup ce réalisateur scénariste. Et vraiment, pour le coup, alors c'est assez choc, Cronenberg, avec son body horror, il peut aller se rhabiller.
Plutôt bien aimé, un peu perturbant, mais pas inhabituel, quoi.
Et le public a toujours raison.
Bah, tout à fait. Et là, non, mais au moins le public est divisé. Je préfère
c'est
ça.
C'est, ce qui... c'est impossible de rassembler tout le monde. Avec
je préfère
ce genre
une
de
composition de cinéma qui est radicale et qui divise et qui va polariser les avis plutôt que d'avoir quelque chose de consensuel dont on se fout et qu'on aura oublié deux jours après. Comme Jurassic World 3.
Alors que même, ne laissera pas indifférent.
Ah, ça, c'est sûr.
Alors, juste pour finir, rapidement, un mot sur Petite Fleur, film du cinéaste argentin Santiago Mitre, une comédie noire et fantastique où un couple souffre de la routine. La solution, faudra la découvrir au cinéma, Franck,
oui,
vous avez
juste
aimé ?
Pour intriguer un peu les gens quand même, c'est à la fois Un jour sans fin, Harry, un ami qui vous veut du bien, quelqu'un se fait tuer tous les jours mais revient à la vie. Est-ce que c'est le symptôme de l'ennui, comme quoi il faut tuer l'ennui dans le couple ? C'est super mignon ce petit film. Et en plus, il y a Vima Laponce qui, pour moi, est la Jim Carrey française. Elle a un jeu très sec.
Il y a un très bon petit buzz autour de ce film. Ouais, et c'est l'année Melville Poupeau.
C'est un très 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 joli film, complètement... un peu vrillé, un peu... on ne comprend pas tout, mais c'est absolument délicieux.
Et c'est déjà la fin de ce clap, qui était absolument délicieux lui aussi. Merci à tous les deux. Aujourd'hui, je recevais Alain Chabat et Léa Drucker pour parler d'Incroyable mais vrai, la nouvelle comédie de Quentin Dupieux qui sera en salle mercredi prochain. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de William Lémergie. Et en attendant, et comme toujours, continuez d'aller au cinéma. Il fait chaud en ce moment, il y a la clim dans les salles de cinéma. Profitez-en. À la semaine prochaine sur Europe 1.
Bon week-end.